Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec CDC Habitat sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour les amis, il est 16h07, nous sommes en direct sur Radio Immo et sur Radio Territoria pour cette table ronde avec nos partenaires CDC Habitat. Car je vous rappelle qu'avec CDC Habitat, on visite finalement la fabrique de la ville dans toutes ses innovations, et des innovations pas que techniques, mais aussi des innovations sociales et d'usage, qui est aussi une forme d'ADN de CDC Habitat. Pour en parler, justement, on a beaucoup de chance qu'on a sa présidente qui est avec nous, Anne-Sophie Grave. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
C'est un plaisir de vous retrouver.
Merci Anne-Sophie. On va partager ce moment justement avec Jérôme Farco. Jérôme Farco, bonjour.
Enchanté.
Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes directeur interrégional pour l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Inutile de dire que vous avez un terrain de jeu très large.
Un terrain de jeu large et sur lequel le logement est une vraie question.
Oui, question et une priorité absolue pour le logement des Français, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Je vous propose comme ça, spontanément, Anne-Sophie, de réagir à cette information qui est maintenant dans les plus une, puisqu'elle s'est installée. 38 ministres ont été nommés. Parmi ces 38 ministres, 16 sont réputés être des ministres de plein exercice. Surprise, nous avons une ministre du logement qui fait partie d'un ministère, qui a un ministère de plein exercice. Comment avez-vous eu cette information? Comment vous l'avez perçue, la nomination de Valérie Létard, députée du Nord?
C'est une double bonne nouvelle. Bonne nouvelle, puisque effectivement elle va exercer dans le cadre d'un ministère de plein exercice. Et elle a à la fois le logement et la rénovation urbaine. Donc effectivement, on pense qu'elle pèsera, j'irai davantage, dans sa capacité à porter les sujets logement. Et puis, excellente nouvelle aussi, parce que c'est vraiment une connaisseuse, si je peux dire, du logement, sénatrice depuis longtemps, qui connaît tous les acteurs, qui connaît bien les problématiques de l'ensemble des segments de notre secteur, de notre grand secteur immobilier, que ce soit le social, que ce soit l'accession privée, que ce soit le logement locatif intermédiaire, mais aussi les sujets d'hébergement d'urgence, et bien sûr ces grands chantiers de la rénovation urbaine. Donc je dirais, on sait qu'on a un cadre budgétaire contraint, mais je pense que voilà, c'est vraiment la bonne personne au bon endroit pour faire bouger les lignes et obtenir, je dirais, le maximum pour débloquer cette crise du logement dans, on le sait, néanmoins un cadre budgétaire qui sera contraint.
Très clair. Et vous, Jérôme, vous l'avez aussi bien perçu, cette information, qui a finalement, franchement, rassuré toute la chaîne de valeur.
Il est certain que c'est une situation, une décision plutôt favorable vis-à-vis du logement. Ce que l'on peut dire, c'est que tout à l'heure, elle a fait un bref échange lors du cocktail organisé par la Banque des Territoires, et que son intervention a plutôt été remarquée de manière positive. C'est un début qui est plutôt favorable.
C'est vrai que c'est un cinquième gouvernement, c'est une sixième ministre du logement. Dans un temps record, ça c'était jamais produit dans la 5ème République, donc on va espérer au-delà finalement des intentions. Elle a quand même dit effectivement qu'elle allait s'atteler à des tâches très vastes, très difficiles. Il faut tout de suite y apporter quelques solutions. On va parler bien sûr également de l'état dans lequel se trouve le logement social. Cette année, c'est un peu moins de 90 000 agréments, me semble-t-il. C'est un chiffre bas, très bas, Anne-Sophie Grave.
Alors c'est un chiffre bas depuis plusieurs années,
Oui, on voit bien. Conséquent, bien sûr.
Voilà, et donc, vous savez, nous, on a coutume de dire, finalement, quand le logement, c'est une chaîne. Donc quand un segment ne va pas bien, finalement, c'est l'ensemble du secteur qui ne va pas bien. Donc aujourd'hui, on connaît toutes les raisons de la crise, je pense qu'on ne va pas y revenir. Bon, sur l'accession privée, on sait que c'est l'impact des taux. Mais plus généralement, en fait, c'est une crise aussi de l'acte de construire, avec des prix de revient qui restent élevés, puisque les coûts de construction avaient quand même beaucoup augmenté. Le foncier, je dirais, reste cher. Et puis, on a ces sujets des taux. Nous, on a les taux du livret A, qui ont quand même, je dirais, fait x6, c'est-à-dire qu'on a assez peu de temps. Donc voilà, c'est cet ensemble, en fait, je dirais, de données, donc quand même des données économiques, qui font que, je dirais, le secteur est un peu en panne. Par ailleurs, pour construire, eh bien, les opérateurs ne sont pas seuls. On fait ça en partenariat avec les collectivités, donc il faut être effectivement avec nos parties prenantes collectivités. On a vu beaucoup de métropoles en fin d'année dernière se mobiliser sur des plans d'urgence pour aider des opérations à sortir. On a aussi les territoires engagés pour le logement, là où il y a mis des moyens ont été mis manière supplémentaire, là aussi, pour aider des logements à sortir. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a cette prise de conscience générale, qu'on a effectivement des métropoles qui se mobilisent, et donc nous restons confiants, justement, avec cette nouvelle ministre, pour arriver que tous les acteurs soient autour de la table et qu'on trouve, voilà, ensemble les bonnes solutions. Et nous, on a eu la chance, mais comme d'autres, puisqu'elle était députée Elliott il n'y a pas si longtemps à l'Assemblée nationale, et en préparant le projet de finances, en fait, elle avait déjà commencé, c'est une élue qui bosse, et elle avait commencé, en fait, à auditionner le secteur. Et donc, nous, on a eu la chance de la voir, voilà, il y a une quinzaine de jours. Et chacun, je pense, voilà, vient avec ses propositions, mais toujours avec cette prise de conscience du contexte. On ne peut pas l'ignorer.
Les circonstances sont quand même particulières et singulières, puisque cette crise multifactorielle a été brutale, hein, et bien évidemment, le logement des Français, le logement en France, est dans une situation qui est une situation dramatique, et donc, bon, je pense pas qu'on pourra aller plus bas. En tout cas, les signaux de la part de la classe politique nous permettent d'envisager des signaux forts de reprise. Comment
juste Sylvain, oui, si je peux préciser, puisque effectivement les signaux positifs ils sont là aussi, parce que je rappelle que CDC Habitat a lancé un plan de soutien en 2023. On reste sur un niveau d'activité très élevé pour 2024. Et comme on est en Occitanie, je vais laisser Jérôme Farco vous dire effectivement qu'a été ce plan de soutien ici en Occitanie par rapport à la production en fait de la région, et on poursuit sur ce même trend en 2024.
Donc en 2024,
on joue pleinement ce rôle contracyclique sur le logement social et sur le logement intermédiaire.
J'allais dire, c'est presque un rôle d'amortisseur dans une certaine mesure aussi.
Complètement.
Justement, situation de l'Occitanie, dans lequel on a regardé les chiffres, où il y a une tension sur le logement qui est très forte. Comment on l'aborde, justement, à l'instar de ce que vient de nous dire Anne-Sophie Gras?
Alors, effectivement, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine accueillent à peu près tous les ans entre 30 et 40 000 nouveaux habitants.
Territoire très attractif.
Alors oui, alors il y a d'abord le dynamisme local, hein, et puis il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, parce que ce sont des régions attractives par leur situation, et puis surtout parce que c'est des régions qui sont extrêmement dynamiques sur la dimension économique. Donc, des gens d'autres régions françaises souhaitent venir s'y installer. Donc, quand on doit recevoir entre, vous l'avez compris, 60 ou 80 000 nouveaux habitants par an, c'est l'échelle d'une ville moyenne.
C'est
Albi, c'est Castres, c'est l'échelle d'une ville moyenne.
C'est une démographie qui donnera envie à d'autres régions, effectivement, mais incroyable.
Alors, c'est aussi le dynamisme démographique local.
Bien sûr.
Parce qu'il y a une population plutôt jeune.
Oui. Voilà. Donc, il y a plein de facteurs. Le climat.
Le climat est un facteur favorable, effectivement.
Le climat, la proximité de grands centres.
Oui, ce qu'on appelle la silver economy aussi.
Oui,
donc, 80 000 nouveaux logements, c'est-à-dire qu'on doit inventer une ville tous les ans. Donc, c'est ça l'enjeu du logement. Et donc, quand on pense au logement sur une plaque comme celle-là, on pense évidemment pour les étudiants, mais on pense aussi pour les familles, et on pense aussi pour les seniors. On ne peut pas réfléchir qu'à une seule catégorie de personnes. Et chez CDC Habitat, nous, ce que l'on souhaite, c'est travailler à la fois pour les plus modestes, parmi l'ensemble de ces composantes, mais aussi pour ceux qu'on considère comme étant les travailleurs essentiels dont on a besoin dans nos métropoles, dont on a besoin dans nos régions, pour qu'elles fonctionnent. Et là, je pense aux salariés de CHU, aux infirmières, aux aides-malades.
Ceux qu'on appelle de première ligne, voilà, ceux qui sont les pompiers, les gendarmes, enfin voilà, tous ceux qui aident et nous facilitent la vie, c'est clair.
Et ça, les élus des trois métropoles qui concernent ma plaque, Bordeaux, Toulouse ou Montpellier, ont bien compris la pertinence de ce modèle à la fois vers les plus modestes par le logement social et vers ces classes intermédiaires et ces travailleurs essentiels via le LLI. À tel titre qu'on a signé il y a quelques mois avec le président maire de la métropole de Montpellier une convention, notamment autour du logement des salariés de son CHU et des salariés de sa société de transport qui s'appelle la TAM. Donc on voit bien que ce modèle, à la fois pour les plus modestes et pour les travailleurs essentiels qu'a choisi CDC Habitat, aujourd'hui fonctionne, est compris par les élus, et c'est comme ça qu'on souhaite intervenir. En 2000, pour répondre à ce que disait Anne-Sophie, effectivement, en 2023, on a réservé plus de 3 000 logements en Occitanie, rien qu'en Occitanie. avec un effet de levier sans doute sur entre 6 et 7 000 logements, parce qu'on n'achète pas 100% du programme.
Bien sûr.
Donc il y a un effet de levier sur 6 à 7 000 logements. Bah, c'est un tiers du marché occitan sur une année, certes, qui n'a pas été extraordinaire. Mais en tout cas, on voit bien que notre effet, et aujourd'hui, tout, à la fois les élus nous en remercient, et les promoteurs aussi, mais nous, c'était pas un plan de soutien aux promoteurs, hein, c'était un plan de soutien au territoire et au logement des territoires.
Oui.
Et aujourd'hui, les territoires nous en sont reconnaissants.
C'est bien l'illustration, finalement, de ce que vous disiez, Anne-Sophie, dans le rôle contracyclique que vous avez eu, justement, dans cette démarche. Comment on fait, justement, je vous ai déjà posé cette question, mais j'aimerais vous la reposer dans le cadre de... Mais donc, pour toujours trouver cet axe d'un logement qui soit durable, mais qui soit surtout accessible. Parce que la difficulté, elle est justement d'ajuster des éléments que vous pouvez maîtriser, mais il y en a d'autres que vous ne pouvez pas maîtriser.
Dans la crise du logement qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est vrai que j'ai évoqué cette évolution des coûts de construction. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui des prix de revient d'opération qui ont quand même très fortement augmenté. Donc il est certain que l'équation financière économique est plus compliquée. Elle est plus compliquée sur le social et elle est plus compliquée aussi sur le logement intermédiaire. Et je reviens effectivement sur l'augmentation des taux d'intérêt. Mais néanmoins, effectivement, à nous de trouver les solutions. Donc ça peut être par l'innovation. Aujourd'hui, on est sur un congrès où l'USH a mis, je dirais, à l'ordre du jour, l'innovation, justement, pour construire durable, vous l'avez dit, mais aussi pour essayer de construire moins cher. C'est un peu, là aussi, contradictoire, puisque vous savez qu'aujourd'hui, tous les permis délivrés aujourd'hui sont délivrés dans le cadre de la RE 2020, avec des cibles 2025-2028. Et cette RE 2020, auquel nous on adhère fortement, puisqu'on essaye même d'anticiper en fait les cibles 2025-2028. Néanmoins, ça renchérit aussi les coûts de construction. Donc on voit bien qu'on a une espèce de paradoxe avec ce toujours mieux sur l'habitat durable, et ça fait partie, nous, vraiment de notre ADN et de nos convictions. Et puis, l'équation économique qui fait qu'il faut qu'on sorte du logement abordable, donc social, comme ça a été dit, pour les familles les plus modestes. Et puis intermédiaire, pour les travailleurs essentiels, c'est ceux qui ne peuvent pas télétravailler et qui exercent ces métiers de santé, de police, de gendarmerie, et bien d'autres encore, les métiers qui font vivre la ville. Donc, ça veut dire aller aussi chercher des financements, des investisseurs tiers, qui sont prêts, effectivement, à investir avec nous pour arriver effectivement à sortir ces logements. Alors, si on a fait, là en 2024, on va mettre en chantier de l'ordre de 20 000 logements. Donc ça veut dire qu'on trouve les solutions, Sylvain.
Oui,
voilà, on trouve les solutions.
Mais
ça veut dire
à la limite,
aussi.
Vous trouvez des solutions, même finalement, même si vous n'êtes pas accompagné par des politiques publiques dont on peut dire aujourd'hui qu'elles n'étaient pas franchement encourageantes, vous avez déjà des solutions que vous avez mises en œuvre en fait.
Oui, et ce qu'on a aussi décidé de faire, c'est qu'on a décidé, alors notamment sur la partie sociale du groupe, de dire, aujourd'hui c'est plus tendu d'un point de vue économique, puisque, pour vous prendre un chiffre précis, un point d'augmentation du taux du livret A sur le groupe, sur la partie sociale, c'est 75 millions d'euros de charges financières supplémentaires sur un an.
Wow.
C'est autant qu'on ne devrait pas mettre dans l'investissement.
Oui.
Néanmoins, nous avons décidé, nous, sur ces deux années 2022-2023, de poursuivre les investissements justement sur toute cette partie sociale du groupe, considérant, alors on fait partie des optimistes très certainement, donc on s'est dit, bon là le taux du livret A est élevé, mais l'inflation là est en train de redescendre, donc le taux du livret A va rebaisser. Vous savez que nous on est financé très long par la Caisse des dépôts, et donc on s'est dit, bon voilà, on va faire le gros dos pendant deux ans. Mais vu la crise que l'on connaît, c'est pas le moment d'arrêter. Donc on a aussi accepté de dégrader, un peu nos indicateurs. Donc voilà, c'est en conciliant, un peu toutes ces contraintes qu'on arrive néanmoins, à sortir du logement.
Moi, je salue cette démarche parce que c'est une démarche volontariste qui a justement pris en base, finalement, le fait que vous avez compris que dans un instant dans lequel on vous attendait comme soutien, ou quand il y a une demande réelle, vous avez joué à plein votre rôle. En fait, c'est comme le banquier qui prête son parapluie quand il pleut, et pas uniquement que quand il fait beau. Donc vous avez su, effectivement, affronter cette démarche. On l'a vu d'ailleurs sur l'Occitanie Aquitaine, sur votre région, on est sur des éléments qui sont quand même extrêmement contraints par la rareté du foncier, on va y revenir bien évidemment, mais et la loi ZAN, d'ailleurs, loi ZAN qu'a piloté Valérie Létard. On le voit bien, il va falloir, sur votre région, sur votre territoire, compte tenu des éléments notamment climatiques, puisqu'il se trouve que j'ai passé l'été dans votre région, dans l'Entre-deux-Mers, à 20 km de Saint-Émilion, on a bien vu l'impact du climat, effectivement, sur notamment les vendanges et les difficultés que rencontre aujourd'hui la filière viticole. Et on voit bien aussi l'impact qu'a, par exemple, des problématiques de pression hydrique dans certaines de vos régions, et qui est un vrai sujet d'ailleurs,
les Pyrénées orientales ont connu deux années de sécheresse, c'est à quelques kilomètres d'ici.
Il y a même certaines petites villes de votre région, magnifiques, qui disent que voilà, je ne signerai plus le permis de construire si je n'ai pas la garantie, par exemple, d'avoir une fourniture en eau suffisante. Voilà. Donc il faut bien, de toute façon, pour la planète et pour notre bien à tous, intégrer des notions qui ne sont pas faciles à entendre.
Bien sûr.
Parce qu'effectivement, on se dit, bah, attendez, les gars, vous êtes bien gentils pour loger tout le monde. Et oui, mais le jour où on ne pourra plus respirer, où il n'y aura plus rien à voir, etc., ça sera quand même bien avancé. Je caricature un peu, mais on en...
Alors, par rapport à ça...
Alors justement, comment, avec votre territoire magnifique, vous arrivez à gérer tout ça?
On peut être fataliste et se dire, bah, le réchauffement climatique, ça arrive pas, on ne sait pas, il fait chaud, c'est pas grave. Mais
il y en a certains, malheureusement, qui réagissent comme ça.
Oui, alors aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus trop de climato-sceptiques, mais il peut y avoir encore des gens un peu fatalistes. Nous, c'est pas le cas chez CDC Habitat. Et ça fait déjà quelques années qu'on réfléchit à la fois sur le recyclage foncier, mais aussi sur la manière dont on construit, sur avec quels matériaux on construit. J'ai en tête une opération qu'on a décidée il y a 4-5 ans, donc c'est dire s'il y avait un peu d'avance, on n'était pas encore tout à fait dans ces questions-là.
Oui, mais j'avais été pionnier alors,
et qu'on est en train de livrer à Bordeaux, qui est construite en pierre. Vous ne cacherez pas, quand il y a plus de 5 ans, l'architecte est venu nous voir en disant « on va construire en pierre », on l'a regardé en disant « mais attendez, comment c'est possible ? On peut encore construire en pierre aujourd'hui ?»
J'adore, c'est super.
Et il nous en a fait la démonstration. À l'époque, on a fait un petit effort économique pour sortir l'opération, mais quand aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec tous ces prix qui ont augmenté, quand on regarde la réalité du coût de réalisation, bah on se dit bah finalement, voilà un schéma qu'on va sans doute pouvoir reproduire.
Bien.
Donc on peut aujourd'hui, et l'avantage de la pierre, c'est que c'est quasiment zéro carbone. La pierre, elle existe à son état naturel, évidemment. Il suffit de la découper, et ça, c'est pas une opération qui consomme beaucoup de carbone. Ensuite, on la transporte, mais qu'on transporte une brique, de la tuile ou de la pierre, de toute façon, il faut transporter les matériaux sur le chantier. Et après, à la pose, c'est extrêmement simple. Donc on voit là qu'on a un modèle de construction qui consomme très peu de carbone et qui est pérenne dans le temps de manière évidente. Hein.
Mais en fait, vous êtes en train de réintroduire un modèle de constructif séculaire.
Exactement.
Et revenir finalement à notre bonne vieille tradition de la pierre. Oui, Anne-Sophie.
Oui, parce que pour répondre à votre question, voilà, Jérôme a donné un très bel exemple, mais c'est vrai qu'on a une démarche globale sur ce sujet-là et où l'innovation est au cœur en fait, de cette démarche,
c'est
le thème de ce congrès. Donc, d'une part, c'est déjà comment on va positionner le bâtiment. Donc, c'est la conception dite bioclimatique pour jouer en fait, avec la course du soleil et puis les ventilations naturelles. Donc ça, c'est un premier aspect, conception bioclimatique pour être protégé de la chaleur.
Avec la course du soleil, c'est, moi, je trouve ça...
Parce que votre bâtiment, selon la façon dont vous le mettez sur la parcelle, eh bien, ça va être très différent. Avant, très honnêtement, on ne regardait pas vraiment ces sujets. L'Outre-mer est très en avance sur ces questions-là par rapport à la France hexagonale.
Mais c'est clair.
Mais il faut s'en inspirer. Après, Jérôme a parlé des matériaux, donc les matériaux comme la pierre, matériaux biosourcés, voilà, comme le bois. Donc là aussi, on y travaille. Ou, vous parliez des matériaux séculaires, l'abri de terre compressée à Mayotte.
Mais oui.
Et on ne construisait plus du tout, alors que c'était vraiment le matériau historique de construction à Mayotte. Et notre filiale à Mayotte, la CIM, est repartie sur des constructions en briques de terre compressées. C'est aussi, parce que là je parle des constructions nouvelles, mais il y a le parc existant. Donc le parc existant, il est déjà là, on ne peut pas bouger le bâtiment sur la parcelle. Donc c'est comment on va amener du confort d'été en retraitant, j'irai l'enveloppe du bâtiment.
On peut aussi le surélever.
Mais aussi, là je vais être plutôt sur les espaces extérieurs. Donc,
d'accord.
Les îlots de fraîcheur, par exemple. Et puis sur la ressource en eau que vous évoquiez, c'est vrai qu'il y a des préfets qui disent, dans telle commune ou telle maire qui dit, il n'y aura plus de construction parce que moi, j'ai pas la ressource en eau.
Ah oui.
Donc, vous savez qu'en France, on était assez en retard sur les questions du recyclage des eaux grises.
C'est clair.
Bon, déjà, le recyclage des eaux pluviales, donc ça, on le fait de plus en plus. Et je pense que Jérôme va nous donner pas mal d'exemples sur tout ce que je suis en train d'évoquer pour montrer que c'est des expérimentations qu'on peut mener. Donc, recyclage, donc recyclage des eaux pluviales, ça se fait quand même maintenant de plus en plus, mais on expérimente aussi du recyclage des eaux grises avec en open innovation avec
des
startups.
Qu'est-ce qu'on appelle les eaux grises?
Bah, les eaux grises, c'est les eaux de votre machine à laver, c'est les eaux de votre douche, voilà, c'est ça les eaux grises. Les eaux pluviales, ça c'est simple.
Et on peut traiter ça, on peut...
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on peut traiter les pays même européens qui nous entourent, l'Espagne, je dirais, comme avait dit un jour un maire de La Réunion, et voilà, la France importe des tomates d'Espagne qui sont lavées avec de l'eau recyclée, alors que la France interdit de recycler.
C'est vrai ce que vous dites.
Et pendant ce temps-là, ça fait concurrence à nos agriculteurs ou nos maraîchers. Voilà, donc là, effectivement, il y a un décret qui vient de sortir sur la réutilisation des eaux grises. Mais il faut tester quand même, parce que ça veut dire, si vous voulez, dans le logement demain, pour recycler ça, on aura peut-être ces eaux grises, on aura peut-être deux circuits d'eau. Pas que parce que
bien sûr.
En France, on prend de l'eau potable, vous savez, pour tout, pour laver les trottoirs, pour tout, pour les toilettes, hein, pour les WC, c'est l'eau potable.
C'est dingue qu'on puisse, dans l'historiographie, de dire qu'on utilise de l'eau potable pour les toilettes, par exemple, ça paraît fou, quoi.
Oui, voilà. Et donc il faut quand même travailler, justement, donc on travaille en open innovation avec des startups pour voir quand même. Il faut expérimenter comment on va retraiter, s'inspirer aussi de ce qui se fait, à l'étranger. Et tout ça, aujourd'hui, ça démarrait. Jérôme pourrait vous parler aussi de l'open innovation sur les peintures réfléchissantes effectivement avoir ces îlots de fraîcheur, éviter les climatiseurs. Donc c'est aussi la décarbonation de notre parc. Donc voilà, c'est vraiment parti un mouvement d'innovation, fort dans le groupe. Et
cet ADN justement d'innovation qui est chevillé parce que vous l'avez fait pour la rénovation énergétique, vous avez introduit des nouvelles méthodes effectivement d'analyse. Qu'est-ce qui fait que vous, CDC Habitat, vous portiez cet ADN-là? Est-ce que c'est la configuration de ce que vous représentez comme machine de fabrique de la ville? Est-ce que vous avez aussi cette capacité, parce que vous en avez un peu les moyens, de pouvoir justement être justement dans cette innovation permanente, dans cette frugalité de recherche de moyens permanents? Qu'est-ce qui vous distingue finalement?
On a accéléré ces dernières années sur le sujet. Alors on avait commencé par... C'est toute une démarche d'innovation en fait. On avait commencé par faire de l'acculturation pour les équipes qui avaient envie de cette innovation.
Oui,
mais on ne s'improvise pas du jour au lendemain. Donc on avait fait des hackathons, on avait eu l'occasion d'en parler, des ateliers, de l'open innovation pour dire, on est un grand groupe, il y a des startups, elles ont besoin d'un terrain d'expérimentation important, elles ne l'ont pas. Et nous, on a besoin de gérer de cette agilité des startups. Donc on a fait tout ça ces 2-3 dernières années, si vous voulez. Et surtout, on a dit aux équipes, on peut expérimenter, on a le droit à l'erreur aussi. Parce que c'est vrai que souvent en France, on se dit, on ne peut pas se tromper. Mais si, on ne saura jamais si ça marche ou si ça ne marche pas, si on n'expérimente pas. Et maintenant, donc on rentre là pour les 3 années qui viennent dans une autre phase qui va être vraiment maintenant les passages à l'échelle. C'est comment, effectivement, on structure encore davantage
cette
innovation sur, je vais prendre l'exemple de la maintenance prédictive avec, effectivement, ce que va nous apporter l'intelligence artificielle, l'exploitation des données. Mais c'est aussi, notre rôle, c'est quand même d'anticiper les besoins de demain. C'est vraiment notre rôle premier. Il faut répondre aux besoins. On a largement parlé de la crise de l'immobilier, donc il faut répondre à ces besoins. Mais comment on y répond au mieux avec l'évolution des usages, les évolutions sociétales? Et tout ça, c'est de l'innovation. Il y a aussi l'innovation sociale, dont on a parfois parlé. Donc oui, ça fait partie de nos exigences.
Alors justement... Je voudrais. Alors c'est important ce que vous dites parce que tout bouleversement est propice au changement. Effectivement, le monde de la construction, de la production de logements, il connaît des bouleversements qui sont propices au changement. Et vous avez joué le rôle finalement, qui est un rôle contracyclique, comme vous le signifiez, dans lequel. Alors certains diront que vous avez soutenu une industrie, vous avez soutenu les promoteurs, mais vous avez surtout œuvré pour le logement des Français. Et c'est ça que je retiens le plus. Et il faut être extrêmement clair sur cette démarche. Jérôme, vous avez évoqué, effectivement, je trouve ça magnifique, parce que, alors, en même temps, je suis un ancien convaincu de devoir, donc je peux être que sensible au fait que vous avez appris. Mais je me rappelle d'avoir eu, dans mon parcours, des amis compagnons qui étaient tailleurs de pierre. Et je trouvais ça, et j'aimais beaucoup leur façon de travailler. Est-ce que ça veut dire, finalement, que, dans une certaine mesure, sur des territoires comme... La Nouvelle-Aquitaine, donc Occitanie, on réintroduit des modes constructifs de bon sens, vous savez, le bon vieux sens paysan, dans lequel on se dit, par exemple, je fais allusion à la terre crue, par exemple, on a parlé de Mayotte avec la réémergence, finalement, on a ressorti des modes constructifs qui étaient complètement à l'épreuve, mais je peux aussi évoquer les structures en bois, je peux des filières qui relocalisent aussi une industrie et qui fait travailler toute une chaîne de valeur.
Alors effectivement, on est attentif au mode constructif, donc la pierre, le bois, l'orientation, et puis ce qu'on va appeler des solutions low tech. Ça veut dire que aujourd'hui, on a de plus en plus de techniques dans nos bâtiments, et c'est normal dans les systèmes qui les gèrent, dans les systèmes qui les chauffent, qui les refroidissent. On a de plus en plus de techniques. Et puis parfois, il y a des solutions de bon sens qui paraissent. Quand je vais vous en parler, vous me dire mais pourquoi on l'a pas fait avant? On a fait le test, là, cet été, ici, à Castelnau-le-Lez, parce qu'il fait chaud, ici, hein, de peindre des toitures en blanc.
Oui, j'ai entendu parler de ça, c'est incroyable.
C'est vrai que c'est assez simple,
vous avez raison. Hein. La première chose qu'on se dit, mais...
Alors, c'est un peu plus que de la peinture, en fait. Il y a quand même un petit peu de technologie derrière.
Ça renvoie le...
Voilà, c'est des petites billes de verre qui sont... Qui renvoient les infrarouges, parce que c'est eux qui créent la chaleur. Donc, on renvoie les infrarouges. Et c'est blanc, parce que c'est encore plus efficace quand c'est blanc. Et donc, on a fait le test. On les a peints au printemps, et puis on a mesuré dans l'été, et puis maintenant, on a eu les résultats. Eh bien, on gagne, rien qu'en faisant ça, entre 3 et 4 degrés sous les tuiles.
C'est énorme.
Donc c'est énorme et c'est juste peindre en blanc. Donc c'est pas, il y a pas besoin d'avoir une application, il y a pas besoin d'être un génie de l'informatique pour le faire.
Mais un toit en tuiles par exemple, je le repeins en blanc avec le même procédé.
Exactement.
Ce que je vais vous dire, dans ma maison, j'ai un gros souci. J'ai aménagé les combles et j'ai fait une petite salle de sport. Eh ben je peux pas l'utiliser l'été parce que c'est insupportable. Et je ne peux pas mettre de climatiseur pour des raisons d'utilisation, puis de voilà, j'ai ma petite empreinte aussi.
Aujourd'hui, il existe des entreprises, alors je ne nommerai pas là, mais il existe des entreprises qui maîtrisent cette technique-là. On l'a fait à la fois effectivement sur des toits en pente en tuiles, mais on l'a aussi fait sur des toits plats, des toits terrasses qui eux aussi étaient noirs, et on a le même résultat. Donc c'est vraiment efficient. Maintenant, effectivement, là, on va se confronter aussi à la réalité réglementaire de l'urbanisme dans notre pays, et que parfois ce genre de solution de bon sens, il va falloir aussi que ce soit accepté dans l'esthétisme que ça génère.
C'est ça.
Hein, donc c'est ça. Pas.
Parce
c'est,
qu'on peut pas. On peut. Oui, je comprends complètement ce que vous
alors,
dites.
Alors on peut le faire d'une autre couleur.
Oui.
Ce sera un petit peu moins efficace parce que c'est pas du blanc, mais on peut le faire d'une autre couleur. En tout cas, voilà, ce genre de technique-là, elle nous intéresse aussi parce que la technologie, le bâtiment connecté, c'est l'avenir en partie de nos logements, notamment
puisque
neuf.
Disait Anne-Sophie avec la maintenance prédictive, moi je trouve que ça c'est remarquable.
Mais sur
parce qu'en fait vous allez anticiper des pannes entre guillemets, si je peux me permettre, avant même qu'elles se produisent.
Exactement.
C'est ça l'objectif, en fait, c'est d'avoir les données suffisamment en amont, avoir analysé en fait des pannes antérieures et éviter qu'elles se reproduisent. Et pour la satisfaction de nos locataires, parce que chez nous, comme chez tous les bailleurs, hein, c'est la réclamation technique. Effectivement, c'est-à-dire panne d'ascenseur, panne de chauffage.
J'allais vous dire l'ascenseur,
fuite
première
d'eau.
Cause avec les fuites d'eau.
Ouais, exactement. Et donc, c'est là où on a les réclamations techniques. Si on n'y répond pas suffisamment rapidement, et puis il faut la disponibilité des pièces, des entreprises. Dans l'ascenseur est en panne, parfois nos locataires ne comprennent pas pourquoi ça met tant de temps. Bah oui, mais il faut que la pièce arrive. Donc si on peut éviter et remplacer la pièce avant, on fait déjà du curatif, on fait du préventif.
Oui, bien sûr.
Évidemment, en entretien, donc c'est du préventif, mais du prédictif. Eh bien voilà, je pense que demain, c'est une piste. En tout cas, nous, on l'a mis dans les grands axes d'innovation là, pour les 3 années à venir. Il y a l'immobilier sobre et résilient, mais il y a aussi cette maintenance prédictive.
Maintenance prédictive. Alors, merci parce que l'IA, c'est là qu'on voit la pertinence de l'intelligence artificielle dans la facilité, dans le fait de faciliter la vie des gens. On va continuer justement sur le mode constructif. Là, vous m'avez cité un truc, moi je trouve ça super. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, Jérôme, aussi la façon de se dire demain on ne fabriquera plus la ville de la même façon? Je vais prendre un exemple, le rétablissement d'îlots de fraîcheur. On peut aussi prendre l'exemple de cours intérieures, par exemple, dont on avait pris l'habitude qu'elles soient bitumées, qu'elles soient bétonnées, dont on voit que dans les expérimentations de certaines écoles, de gymnases, de lieux publics, mais aussi de cours dans des immeubles privatifs, on réintroduit finalement de la pleine terre.
Effectivement.
En se disant que finalement, et on voit qu'on a des variations de l'ordre effectif, alors peut-être pas aussi élevé qu'avec le procédé dont on vous parlait, mais déjà de 2 degrés. Et ce qui est énorme dans
ce qui est intéressant, c'est qu'on vient, nous, on vient de faire sur Toulouse Métropole une étude sur la biodiversité dans notre patrimoine. Parce que généralement, une résidence bien entretenue, c'est un bâtiment avec une pelouse bien tondue. Sauf que cette pelouse bien tondue, elle est certes agréable, mais elle a deux problèmes, c'est qu'elle amène peu de fraîcheur et qu'elle est plutôt, elle n'est pas favorable à la biodiversité. Et donc on va essayer de travailler pour ramener plus de biodiversité, c'est-à-dire en amenant des arbustes, des arbres, des pelouses, des zones de prairies sauvages. Et ça va ramener de la fraîcheur. Tout en plus, en étant favorable à de la biodiversité. Donc, on voit qu'on a là des choses assez simples, en réalité, que l'on peut réaliser avec peu de moyens, parce que c'est pas beaucoup de moyens. Et après, la question qu'on aura, c'est en parler aussi avec nos locataires. Parce que nos locataires, ça fait 30 ans qu'ils sont habitués à avoir une belle pelouse bien tondue. Donc, il va falloir leur expliquer pourquoi on la tond différemment, pourquoi on réintroduit des arbres, pourquoi on réintroduit des arbustes. Et puis, voilà. Donc, après, il y aura toujours ce dialogue parce que, on n'est jamais, nous, dans un intellectualisme forcé. Nécessairement, on est toujours confronté à la réalité de la vie de nos locataires et de leurs remarques.
Et puis,
on doit penser à eux.
Oui, en fait, ce que vous dites, finalement, c'est que sans adoption, en fait, ce n'est pas du top-down, c'est du bottom-up. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une adoption à l'échelle Iris, à l'échelle la plus petite du quartier de la rue, pour que, justement, il y ait cette adoption. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le climat, Sophie. À une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez du chemin, qui était celui qui se présentait aux élections présidentielles dans les années 70, qui avait un col roulé, où il s'appelait Dumont.
Dumont,
voilà, vous vous rappelez, avec le gros col roulé qui disait le climat, etc. Il nous faisait rire à l'époque. Et on voit que l'impact que ça peut avoir. On n'était pas très nombreux, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque qui suivait ces recommandations. On voit aujourd'hui qu'il n'y a plus de débat, qu'on a une masse de personnes. Pour répondre à ce que vous disiez, je pense que les gens, ils seront très sensibles. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que la réflexion que vous faites sur justement le fait de voir un gazon et non favorable à la biodiversité, c'est la même réflexion qu'on a sur l'agriculture, avec la monoculture. Et qu'on se rend compte qu'en fait, pour être dans des situations de permaculture, justement, on s'est rendu compte qu'en fait, la biodiversité, mais aussi la production de légumes, de fruits toute l'année, c'était justement l'addition de toutes ces cultures qui favorisaient, par exemple, le retour d'espèces endogènes qui étaient dans certains lieux. Et on l'a vu également que dans ce que vous faites, en réintroduisant ce type de paysage, le miel, les abeilles, avaient une pollinisation qui était nettement meilleure. Exactement. Et on se rend compte même qu'elles se portent mieux en ville qu'à la campagne, quand même, à Bradox. Ouais. Hein.
C'est vrai.
C'est un job formidable que vous faites. Hein. Vous faites un boulot super.
Et j'ajouterais, sur l'exemple de Jérôme, puisque tout à l'heure, on a parlé de la façon dont on conçoit les quartiers de ville aujourd'hui, avec le ZAN. Et c'est vrai que quand on vient, donc de plus en plus, hein, on va produire des logements en faisant de la reconversion de friches industrielles, de bâtiments, d'activités gérées dans des cœurs de ville. Et quand je regarde, moi, les projets qu'on a, en général, donc on prend des sites qui sont imperméabilisés et on renature au moins de l'ordre de 50% de ces sites, tout en produisant du logement, tout en produisant des équipements.
50%.
Moi, j'ai deux exemples. Thiers Orly en région parisienne, Lambersa, géré dans le Nord. Oui. Et Jérôme, je pense, en a dans la région Occitanie également.
Bien sûr, on vient d'inaugurer la Cité Blanche à Toulouse, où c'était un...
J'ai vu,
c'est 45% d'espace naturel.
Pour les gens, il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo parce que...
C'est clair, ils se sentent...
Parce que c'était une ce qu'on appelait une cité d'urgence construite dans les années 50, après la guerre, et avec tous les hivers froids qu'il y a eu à cette époque-là, sans logement, construit comme ça, les uns à côté des autres, très rapidement... Ouais. C'était du provisoire, mais 60 ans plus tard, c'était toujours là. Ouais. Donc effectivement, en 2010, on y a réfléchi. Et puis après, c'est le temps de la construction de la ville aussi. C'est ça aussi qu'il faut imprimer, c'est qu'on est dans des métiers de long terme. 14 ans plus tard, on vient inaugurer ce nouveau patrimoine de 430 logements, 45% rendu à la nature, et puis à la fois réfléchi autour de l'équilibre des populations. Il y a à la fois des jeunes, des seniors, des familles, l'équilibre dans les... dans les publics visés, à la fois du logement social, à la fois du LLI, à la fois du privé. Voilà, on a vraiment voulu ce quartier autour de ce mot de l'équilibre. L'équilibre avec la nature, l'équilibre entre les générations et l'équilibre entre le type de revenus des habitants. Voilà, et ça, ça marche.
Vous parliez de l'ADN, il est bientôt l'heure de nous quitter, vous parliez de l'ADN de CDC Habitat. Vous savez ce qui vient à l'esprit pour qualifier cette démarche que vous avez, Anne-Sophie Grave ? Une citation, je crois que je vous l'avais déjà donnée, de Victor Hugo, si vous permettez, pour conclure cette table ronde, qui disait la chose suivante: « Je préfère le futur au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. » Et ça caractérise bien cette démarche d'innovation que vous avez à l'intérieur de CDC Habitat.
Et on va l'ajouter dans les murs, enfin sur les murs de notre siège, où il y a déjà beaucoup de citations, mais je la trouve très belle, effectivement, sur cette capacité à se projeter.
Bien sûr.
Mais c'est aussi une obligation, une exigence et un devoir, effectivement, de concevoir cet habitat de demain, ces quartiers de demain, prenant en considération toutes les évolutions, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient environnementales. Et ça fait partie, vous l'avez dit, de notre ADN.
Moi, je pense que dans ce que vous faites, hors les murs, je veux dire, hors les murs sans faire de jeu de mots, a une charge symbolique importante. Parce que vous en avez la possibilité, parce que vous êtes aussi une locomotive dans le monde de l'innovation et de la construction de la ville, par ce type de soucis. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'on vous fait, c'est que vous avez intégré des ratios qui sont extra-financiers, qui sont d'ordre sociétal, d'ordre environnemental, pour fabriquer quelque chose, même quand il y a un modèle économique, pour trouver ces ajustements qui sont favorables. Et enfin, de dire que, in fine, on travaille tous pour le logement des Français, pour le bien-être des gens, dont c'est le premier marqueur social, dont c'est le lieu de l'intime, là où les destins se fabriquent, où les familles se développent, et on l'a vu d'ailleurs, que les crises du logement ont un impact direct avec la cellule familiale, les problématiques de décohabitation, de projets de vie qu'on peut avoir tout simplement. Vous voulez ajouter ?
Oui, j'ajoute, parce que ça a été dit dans ce congrès, c'est aussi du pouvoir d'achat.
Mais bien sûr, surtout le pouvoir d'achat. Merci Anne-Sophie Grave.
Merci.
C'est un vrai plaisir de vous avoir toujours sur le plateau. Vous êtes présidente de CDC Habitat. Merci Jérôme Parco. Belle rencontre. Je suis ravi de vous voir sur le plateau. Venez plus souvent nous voir.
Avec
je rappelle que vous êtes directeur interrégional Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, un territoire magnifique qui me donne très envie. D'ailleurs, j'ai quelques projets en cours. Il faudra que je vous en parle. Merci en tout cas à vous deux d'être venus pour cette table ronde thématique. Parler du logement accessible, durable, abordable, tout en conciliant la transformation environnementale auquel tout le monde souscrit. Voilà, il est 16h44 exactement. On va se retrouver dans quelques instants pour nos émissions. On vous souhaite à vous deux un très très bon congrès de l'Union sociale pour l'habitat.
Bonne fin de congrès.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec CDC Habitat sur Radio Immo et Radio Territoria.